3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Un programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinéparc. Fantôme. Monstres, zombies et autres créatures surnaturelles ont su terroriser les cinéphiles pendant des décennies. Mais l'histoire du cinéma compte également quelques voitures démoniaques qui donnèrent froid dans le dos des amateurs. Ce sera Steven Spielberg avec son téléfilm de 1971, Duel, qui partira la mode de ces voitures tueuses qui seront alors représentées ici par deux voitures démoniaques, soit la Lincoln Continental Mark III de The Car en 1977 et le Plymouth Fury 58 du film Christine en 1983. Avec leur look menaçant, ces deux voitures qui possèdent leur propre âme démoniaque semblent avoir des intentions hostiles envers la population de petites communautés américaines et commettent une série de tueries collectives injustifiées qui forcera alors une lutte à finir entre ces objets de l'enfer et les représentants des forces du bien. Surgissant de nulle part, ces bolides utiliseront klaxons et musique afin de terroriser leurs futures victimes avant de disparaître de nouveau dans les ténèbres, devenant au passage les véritables stars du film dans lequel elles apparaîtront. Donc, attachez vos ceintures et soyez à l'affût de klaxons ou de musique tirée des années 50 et gardez les yeux bien ouverts, surtout avant de traverser la rue, puisque je vous transporte ici dans un univers terrifiant où ce véhicule formé d'acier, d'aluminium, de cuivre et autres types de matériaux devient une arme meurtrière pour les forces du mal dans ces deux longs-métrages mis en image par les metteurs en scène Elliot Silverstein et John Carpenter. Et rappelez-vous, derrière chaque moteur se cache un petit cœur sensible, ou pas.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Is now, the time is here. Now's the time for a bite of cheer. A tasty light where the price is right. Well, look at here, you'll dig this sight. The moment's handy for a piece of candy. Just name your brand, they're all so grand. Hey, what do you think of an ice cool drink? Or a big box filled with a popcorn thrill? Let your taste buds mint with an ice cream treat. Refresh yourselves, it's time to eat. So come on, folks, let's join the band as we all head for the refreshment stand.
By orange made the drink on a stick.
Hostess Ripple. Hostess Ripple.
Hostess Ripple.
Ask for Hostess Ripple.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Visited the Earth in many forms. Now it returns as the car.
There was no driver in the car.
Possessed.
I know why he didn't go into the cemetery. The ground was hallowed.
Who knows what it wants? They all know nothing can stop the car.
This is Wade. We can't let him through no matter what.
Stay in close. You have to stop.
There's nowhere to turn.
The car, he's in here.
Nowhere to hide. No way to stop the car.
I think I hear the engine of that car. It's around here somewhere. Wait, I'm scared. No, I promise you I won't go out. Tell me what to do, baby.
What evil force drives the car?
The Car, ou l'enfer mécanique, est un drame fantastique qui a été distribué par les studios Universal Pictures le 13 mai 1977. Ce film américain d'une durée de 98 minutes a amassé plus de 6,1 millions de dollars au box-office. Malheureusement, il m'a été impossible de trouver le budget de production. Sur la chaise du réalisateur, on y trouve le metteur en scène Elliot Silverstein, lui qui nous avait donné les films Cat Ballou, A Man Called Horse et Flash Fire. Au niveau des producteurs, eh bien, on y retrouve deux hommes dont il s'agira ici de l'unique film qu'ils auront produit sur le grand écran, soit Marvin Bird et Elliot Silverstein. Du côté de la scénarisation, on y retrouve Michael Butler, ce scénariste américain qui nous avait donné les scénarios de Pale Rider, Brannigan et Call of Silence, Dennis Shriak, ce scénariste américain qui a écrit les scénarios de The Gauntlet, Rent-A-Cop et Cadence, ainsi que Lane Slate, ce scénariste américain qui a travaillé sur les scénarios de The Tribe, Deadly Games et Deadly Care. Au niveau de la distribution, on y retrouve les acteurs James Brolin, Kathleen Lloyd, John Marley, Elizabeth Thompson, Ronnie Cox, R.G. Armstrong, John Rubenstein, Kim Richards et Kyle Richards. Dans une région du sud-ouest américain, une voiture mystérieuse se met à faire des ravages en s'en prenant aux habitants de la petite ville de Santa Ynez. Deux scénaristes, Dennis Shriak et Michael Butler, allaient se réunir pour la première fois de leur carrière pour écrire le scénario de Wheels. Ce sera Universal Pictures qui offrira alors plus de 300 000 $ pour acheter les droits cinématographiques de l'œuvre le 5 novembre 1975. Wheels sera fortement inspiré par deux autres succès d'un autre jeune réalisateur qui avait travaillé pour la compagnie Universal, soit Steven Spielberg, qui avait réalisé les films Duel et Jaws. Butler et Shriak travailleront par la suite sur d'autres scénarios, ces derniers refaisant équipe par la suite pour les films The Gauntlet, qui est sorti en salle la même année, Murder by Phone en 1982, Flashpoint en 1984, Code of Silence en 1985, Pale Rider en 1985 et finalement 50-50 en 1992. Ayant déjà travaillé pour la Universal sur les séries télé Ironside, qui fut diffusée de 1972 jusqu'en 1974, et Barata, qui fut diffusée, elle, en 1975, Michael Butler et son nouveau comparse s'inspireront également de la comédie de science-fiction du producteur Roger Corman, Death Race 2000, réalisée en 1975, et profiteront de cette période dans laquelle le cinéma fantastique semblait prendre de la popularité, surtout suite au succès de The Exorcist en 1973, Race with the Devil en 1975, The Omen en 1976 et surtout Carrie, distribué en salle cette même année. Le 27 février 1976, Universal Pictures changera le titre de Wheels pour The Car. Cette décision sera prise parce que la maison de production United Artists possédait les droits cinématographiques du livre du romancier Arthur Ailey, également intitulé Wheels. Lane Slate, qui avait également travaillé pour la télévision, sera alors amené sur le projet afin de retravailler les dialogues du long métrage. Ce sera la première et unique expérience du scénariste pour le cinéma. Une fois le scénario terminé, Universal Pictures se tournera vers le metteur en scène américain Elliot Silverstein, un autre habitué de la télévision ayant travaillé sur quelques épisodes de la série Twilight Zone et Tales from the Crypt. Cependant, fort de sa première œuvre cinématographique en 1965, Cat Ballou, le réalisateur avait obtenu d'excellentes critiques sur un autre film de sa création, soit A Man Called Horse, en 1970, et avait touché à l'horreur dans son film précédent, soit Nightmare Honeymoon, en 1974. Silverstein se tournera alors vers le directeur de la photographie, Gerard Hirschfeld, qui avait travaillé précédemment sur des films tels que Young Frankenstein en 1974 et Two Minute Warnings en 1976. L'homme créera ici une atmosphère typiquement western, faite de grands espaces poussiéreux où nous sera présenté ce combat entre les forces du bien et cette machine démoniaque meurtrière. Avec un budget des plus restreints, The Car étant typiquement un film de série B cherchant à faire de l'argent sur le succès de films à grand budget, le réalisateur américain se tournera vers le concepteur et constructeur américain de nombreuses voitures célèbres, le très légendaire George Barris, qui fut responsable de la création de véhicules tels que la Batmobile de la télésérie des années 60 Batman, ainsi que la fameuse Monsters Couch de la série de Monsters. Avec un budget de plus de 84 000 $, Barris utilisera un Lincoln Continental Mark III de 1971 de couleur noire qu'il modifiera afin de donner des allures de tueur psychopathe et de prédateur. Plus de 12 hommes travailleront pendant plus de 6 semaines afin de construire les 4 véhicules nécessaires à la production. Un des véhicules servira au plan rapproché alors que les 3 autres voitures seront utilisées pour les scènes de cascade et de poursuite. 2 des 4 voitures seront détruites durant la production. Aujourd'hui, il existe encore un seul de ces véhicules sur le marché, celui-ci appartenant à un collectionneur. Côté esthétique, la couleur noire de la voiture est voulue, représentant le côté diabolique du véhicule. Plus de 20 couches de laque ont été apposées sur la voiture pour assurer sa brillance lors de certaines séquences. Afin de donner un air sinistre au véhicule, le réalisateur Elliot Silverstein demandera au concepteur George Barris de rabaisser le toit de plus de 3 pouces. Les ailes seront alors renforcées et bombées vers le haut. Une grille de métal chromé fabriquée à la main sera placée à l'avant, juxtaposée par 2 phares ronds de 7 pouces, entrés profondément dans la calandre de la voiture. Les vitres seront peinturées en noir avec une toute petite ouverture à l'avant pour permettre aux cascadeurs de se diriger. Même si les Lincoln montés pour le film étaient équipés d'un moteur V8 assez puissant, le poids total de chaque véhicule sera de 5500 livres, rendant le bolide un peu lent et malhabile pour les cascadeurs. La compagnie BF Goodrich sera alors mise à contribution pour fabriquer des pneus plus résistants pour supporter le poids du véhicule. Selon Silverstein, le son du klaxon représente la lettre X dans le code Morse. Au total, la voiture aura une longueur de 20 pieds alors qu'elle sera 9 pieds de large. De nombreux dispositifs et mécanismes de sécurité ont dû être installés pour des raisons de sécurité au travail afin de protéger les cascadeurs qui montraient dans l'intérieur de la voiture. Les trois véhicules utilisés pour les séquences de cascade furent modifiés avec un harnais de sécurité. L'une des voitures fut équipée d'un canon à air, d'un poteau téléphonique et d'un capuchon en acier avec de la dynamite et de la poudre noire. Lorsque le cascadeur déclenchait le canon, il enfonçait le poteau dans le sol, permettant ainsi de réaliser la spectaculaire scène des cinq tonneaux où la voiture diabolique écrasera deux voitures de police sur son passage. Au niveau de la distribution, on y retrouvera James Brolin, un acteur remarqué pour ses performances dans le drame Skyjack et le film de science-fiction Westworld. À ses côtés, on retrouvera Kathleen Lloyd, dont il s'agira ici de la deuxième apparition sur le grand écran, John Marley, que l'on avait vu dans des films tels Love Story et The Godfather, et Ronnie Cox, qui fit ses débuts dans l'excellent Délivrance de John Boorman en 1972. Fait amusant, il s'agira de la toute première fois de leur carrière où les sœurs Kim et Kyle Richards partageront l'écran dans un même film, chacune ayant eu jusqu'à date une carrière séparée. Le tournage de la production débutera le 28 juillet 1976 à Kanab, au Utah. Le tournage se poursuivra par la suite pendant plus de 5 semaines avant de se terminer dans les studios de la Universal en septembre. Durant la production, le regretté leader de l'Église de Satan, Anton LaVey, recevra un crédit comme conseiller technique pour le film. Sa citation, qui apparaîtra dans le générique d'ouverture, est tirée de Invocation of Destruction, écrite dans la Bible satanique. Le film sera principalement reconnu pour deux cascades spectaculaires, soit celle de la chute d'un cascadeur du haut d'un pont, une chute de plus de 196 pieds de haut, réalisée par le cascadeur A.G. Bakunas, ainsi que cette fameuse séquence où la voiture maléfique effectuera plus de 5 tonneaux afin d'écraser sous son poids deux véhicules de police. Au niveau musical, la participation de Leonard Rosenman soutient le film avec un thème qui pourrait sembler familier aux spectateurs d'aujourd'hui. En effet, le compositeur retravaillera d'une façon instrumentale le chant médiéval intitulé « Dies Irae », un thème qui sera repris en 1980 dans le film « The Shining » par le compositeur Wendy Carlos. Le drame fantastique sera distribué dans les salles nord-américaines en mai 1977. Malheureusement, The Car sera assez mal accueilli par les critiques et sera même listé dans le livre The Official Razzie Movie Guide du concepteur des Golden Raspberry Awards, John Wilson, comme l'un des 100 meilleurs mauvais films les plus plaisants à regarder. De plus, The Car se retrouvera en salle seulement 2 semaines avant la sortie d'un des plus grands blockbusters de l'année, soit Star Wars, ce qui coupera alors les revenus du film qui n'amassera alors qu'un maigre 6 millions au box-office. Avec le temps, L'Enfer mécanique deviendra un film culte dont l'un des plus grands fans ne sera nul autre que le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, qui possède chez lui une réplique de la Lincoln Continental Mark III, réplique qui fut construite par son propre frère. D'ailleurs, Del Toro sera derrière la conception d'un générique de la série animée The Simpsons, dans lequel il fera apparaître la dite voiture maudite. Plus tard, la voiture apparaîtra également dans le jeu vidéo intitulé Smashing Drive, alors qu'en 2019, soit 42 ans après le film original, un spin-off intitulé The Car, Road to Revenge sera produit par la compagnie Universal 1440 Entertainment et mettra en vedette l'acteur Ronnie Cox de retour, mais dans un rôle différent de celui qu'il interprétait dans le film de 1977. Du côté des points forts, eh bien, même si le réalisateur Elliot Silverstein n'a pas le talent d'un Steven Spielberg, il démontre quand même une certaine compétence technique, y allant même de quelques belles trouvailles au niveau de sa mise en scène. La scène d'introduction de la voiture est assez spectaculaire, le contexte géographique étant très bien exploité. Au niveau des acteurs, le soin qui est apporté à la présentation des différents personnages par le metteur en scène permet aux spectateurs de ressentir davantage d'empathie à leurs endroits, tout spécialement le personnage de James Brolin avec son aspect familial qui est non seulement amusant mais attachant. Il faut souligner le look superbe de la Lincoln qui est ici massive, imposante et tout simplement terrifiante avec le bruit de son klaxon et son regard étrangement humain. De plus, les effets accélérés pour augmenter la vitesse du véhicule ne sont pas fatigants ici. The Car est un excellent popcorn movie qui n'est jamais ennuyeux à regarder. Mais du côté des points négatifs, le film n'arrive jamais à rendre plausible son histoire abracadabrante et bien des questions vont rester sans réponse à la conclusion du long métrage. Cependant, il nous est également difficile d'oublier qu'on est en train d'écouter un film de série B à petit budget, les dialogues ridicules et enfantins n'aidant pas au spectacle. De plus, les diverses intrigues sont artificielles et superficielles et ne servent qu'à remplir les moments morts de l'histoire, ce qui donne certaines longueurs au film malgré le rythme bien maintenu du long métrage. Au niveau de la réalisation, il faut souligner le mauvais cadrage des scènes de cascade, surtout lorsque la voiture s'attaque à un groupe de cow-boys à cheval, alors que ces cascadeurs qui ont mis leur vie en danger tombent de leur cheval à proximité des roues du véhicule. Le directeur photo va lui cadrer beaucoup trop proche, ce qui fait qu'on ne voit rien de cette action. Les raisons aussi d'être du véhicule ne sont jamais vraiment expliquées. Par moments, la voiture semble dotée de pouvoirs surnaturels et à d'autres moments, elle semble bloquée par des réalités physiques qui nous sont mal expliquées, style une moto qui va plus vite qu'elle alors qu'elle semble dotée d'une super vitesse. Finalement, l'enfer mécanique ne contient pas vraiment de surprises et est une histoire des plus conventionnelles, la fin sombrant même dans un délire beaucoup trop religieux. D'ailleurs, la conclusion ici est véritablement farfelue et ridicule et surtout mal expliquée. Au niveau de la trame sonore du film, ce sera le musicien Leonard Rosman, ce compositeur américain, qui nous avait donné les trames sonores des films Star Trek IV, The Voyage Home, The Lord of the Rings, le film d'animation de 1978, et Robocop 2. Il verra sa trame sonore mise en CD le 2 mars 2015 sous l'étiquette Intrada le 2 mars 2015. Je vous mets ici le thème de The Car.
Intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
Plymouth stays young and proves it. You're watching a 58 Plymouth in Miami, Florida, nearing the end of the greatest endurance run a low-priced car ever made. 1,000 miles a day, every day, for 58 consecutive days. A 58,000-mile trip, equivalent to 6 years driving by the average motorist. With a winding course that rode Plymouth 58 three times across the map of America, through blistering desert heat. The low temperatures of high altitude. The stop and go of city traffic. 58,000 miles, proving again that Plymouth is America's biggest automotive value. Here in Miami, right after the run, leading automotive writers are invited to take part in testing the brake efficiency of the 58,000-mile Plymouth against another Plymouth right off the assembly line. As you see, well-known newsmen accompany each driver. And now, from 45 miles an hour, both drivers will hit the brakes the instant they see the smoke bomb. There. And here is the startling fact. The 58,000-mile Plymouth required only 38 inches more to come to a complete stop from 45 miles an hour. Similar tests also prove that you get greater stamina and overall value in the 58 Plymouth. What's more, when you trade, you'll get more money for your 58 Plymouth. For even after 58,000 miles of continuous driving, Plymouth stays young and proves it. Plymouth, America's biggest automotive value.
Ach, hello there. Give the demonstration of my new invention, the Goodies Machine. Special for patrons of this drive-in, the machine turns out delumptious hot doggies one after the other. Und thirst-quenching sodas also. Gives popcorn of the most tasty kind, plain and buttered. Candy too, crunchy and dandy. Steaming hot coffee and ice cream too. These goodies are at our snack bar, just waiting for you.
And now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
She is seductive. She is passionate. She is possessive. She is pure. Evil. She is Christine. A 1958 Plymouth Fury. Possessed by hell. Her previous owner is not alive to warn her present one. Once she lures you behind the wheel, you will be hers, body and soul. There is no place you can hide, no place you can run, and nothing you can do can stop her. Because how do you kill something that can't possibly be alive? Christine, body by Plymouth, soul by Satan.
Christine, ou Christine en version française, est un drame fantastique qui a été distribué par les studios Columbia Pictures le 9 décembre 1983. Ce film américain d'une durée de 110 minutes a coûté 10 millions de dollars à produire, mais amassera plus de 21 millions de dollars au box-office nord-américain. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain John Carpenter, qui nous avait donné la version de 1982 de The Thing, Halloween et The Fog. On retrouvera au niveau du poste de production Richard Kobritz, ce producteur américain qui a travaillé sur des films comme Alien Nation, Apt Pupil et Fear, et Larry Franco, ce producteur américain qui a travaillé sur des films tels They Live, Prince of Darkness et October Sky. Au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste américain Bill Phillips qui, lui, avait déjà travaillé sur des films tels que Fire with Fire, Physical Evidence et Rainbow Drive. Au niveau de la distribution, on y retrouve Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Robert Prosky, Harry Dean Stanton, Christine Belford, Robert Darnell, Robert Blossom et Kelly Preston. Un adolescent timide achète à vil prix une vieille automobile qu'il entreprend de remettre à neuf. Peu de temps après, son meilleur ami découvre que le jeune homme renfermé s'est transformé en une personne pleine d'assurance et qui semble devenue obsédée par la voiture qui semble, elle, être possédée par une force surnaturelle. Écrit par l'auteur Stephen King, le livre Christine sera publié par la maison d'édition Viking le 29 avril 1983. Ce sera la nouvelle compagnie de production Polar Films qui achètera alors les droits cinématographiques de la nouvelle. Un des cofondateurs de cette entreprise sera le producteur Richard Kobritz, qui avait précédemment produit la mini-série Salem's Lot en 1979, durant laquelle il fera la connaissance de l'écrivain américain. King enverra alors deux manuscrits au producteur sur lequel il travaillait, soit Cujo et Christine. Kobitz et Carpenter avaient déjà travaillé ensemble en 1978 sur un film fait pour la télévision intitulé « Someone's Watching Me ». C'est pour cette raison que le réalisateur américain sera le tout premier choix du producteur. Malheureusement, Carpenter, qui avait déjà réalisé « Halloween »,« The Fog »,« Escape from New York » et « The Thing », n'était pas disponible, travaillant sur deux autres projets, soit l'adaptation cinématographique de « Firestarter », une autre adaptation d'un roman de Stephen King, et de « Ninja », également une adaptation d'un roman de Eric Van Lustbader en 1980. Cependant, des délais de production importants sur ces deux projets permettront alors à Carpenter d'accepter le poste de réalisateur sur Christine. Ce sera Carpenter qui choisira le scénariste Bill Phillips pour écrire le scénario du long-métrage. Certaines modifications furent apportées entre le roman et le scénario afin de bien faire la transition entre le monde littéraire et cinématographique. Pour les effets spéciaux, Carpenter se tournera de nouveau en direction du concepteur des effets spéciaux Roy Arbogast, avec qui il travailla sur The Thing afin de réaliser les différentes séquences de transformation de Christine. Viendra par la suite le choix de la distribution. Initialement, Columbia Pictures voulait obtenir les services de l'actrice Brooke Shield pour le rôle de Lee, spécialement à cause de sa nouvelle popularité acquise suite à la sortie du film The Blue Lagoon en 1981, ainsi que l'acteur Scott Baio dans le rôle d'Arnie. Carpenter déclinera la suggestion, optant pour une distribution comprenant de jeunes acteurs encore assez inconnus. Kevin Bacon auditionnera pour le rôle de Arnie, mais ce dernier se retirera du projet lorsqu'on lui offrira le rôle principal pour le drame musical Footloose, qui sortira en salle en 1984. Finalement, Carpenter choisira un jeune acteur du nom de Keith Gordon pour interpréter le rôle d'Arnie après une audition à New York. Gordon avait une certaine expérience dans le cinéma et travaillait également au niveau du théâtre à l'époque. Quant à l'acteur John Stockwell, ce dernier fut choisi lors d'une audition à Los Angeles. Pour le rôle du personnage féminin, ce sera finalement la jeune actrice de 19 ans, Alexandra Paul, qui fut choisie suite à une audition à New York. Paul était une jeune actrice sans aucune expérience ni formation qui apportera de grandes qualités au personnage de Lee. Paul n'avait lu aucun des livres de King ou vu des films de Carpenter au moment de son embauche. Suite à l'embauche de sa distribution, Columbia annoncera une sortie prévue en salle du long-métrage pour décembre de 1983, ce qui ne laissera que très peu de temps au réalisateur pour mettre son film sur pellicule. La photographie principale débutera le 25 avril 1983 à Los Angeles, en Californie, quelques jours seulement après la publication du roman de King, qui atteindra la deuxième place sur la liste des best-sellers du New York Times. Carpenter demandera au chef décorateur Daniel Loming et la régisseure Carlene Gallegly de trouver des lieux dépourvus de palmiers, car il devait créer l'illusion d'une ville indescriptible du nord de la Californie dans la métropole de Los Angeles. Loming et son associé Cloudia devaient également reproduire une usine automobile selon les spécifications des années 1950. Après des recherches approfondies, les deux hommes construiront l'ensemble de l'usine dans ce qui était autrefois une usine de meubles à Sun Valley, en Californie. Le produit final impressionnera les représentants du General Motors Corporation par son authenticité. Au niveau de l'explosion de la station-service, celle-ci sera filmée sur un terrain à Newhall, en Californie, avec la ligne d'horizon de la ville voisine de Valence en arrière-plan. Une station entière a été construite, soigneusement conçue, pour que l'explosion se produise avec succès dès la première prise de vue. Toutes les cascades du long métrage seront principalement réalisées par le coordinateur des cascades, Terry Leonard, qui était au volant de la voiture pendant les scènes de poursuite à grande vitesse, ainsi que la scène dans laquelle la voiture roule sur une autoroute en flammes. Il est à noter qu'au cours du tournage de cette scène, Leonard portait une combinaison de pompiers avec un appareil respiratoire. La sœur jumelle identique d'Alexandra Paul, Caroline Paul, a écrit qu'elle et sa sœur avaient fait une farce pendant le tournage, envoyant Caroline sur le plateau à la place d'Alexandra sans le dire au réalisateur John Carpenter. Ce sera finalement la scène mettant en vedette Caroline qui restera sur la version finale du film. Bien que la voiture dans le film soit identifiée comme un Plymouth Fury 58, des publicités à la radio faisant la promotion du film annonçaient qu'il s'agissait d'un 57 Fury. Deux autres modèles du Plymouth, soit le Belvedere et le Savoy, furent également utilisés pour représenter l'automobile malveillante à l'écran. John Carpenter placera des annonces dans tout le sud de la Californie à la recherche de modèles de la voiture et a pu en acheter plus de 24 dans divers états de délabrement qui ont été utilisés pour reconstruire un total de 17 exemplaires de la voiture pour le film. Il est important de spécifier qu'en 1983, les Plymouth Fury 58, encore en état de rouler, commençaient à se faire rares. Seulement 5303 Plymouth Fury avaient été construites durant l'année de sa conception et elles étaient devenues très difficiles à trouver et très chères à acheter à cette période. De plus, les Fury réels n'étaient disponibles qu'en d'une seule couleur, soit celle du Sandstone White avec un intérieur buckskin beige, tel que les autres Fury qui apparaîtront sur la chaîne de montage pendant les premières scènes du film. Plusieurs véhicules seront détruits durant la production. Après la fin du tournage, les véhicules seront vendus à la ferraille, mais l'un des véhicules survivants a finalement été sauvé de la casse et sera restauré. Cette voiture sera par la suite achetée par un collectionneur, Bill Gibson, qui vivait à Pensacola, en Floride. À l'origine, Carpenter n'avait pas prévu de filmer les scènes de régénération de la voiture, mais a donné 3 semaines au superviseur des effets spéciaux Roy Arbogast pour trouver un moyen de reconstruire la voiture. Arbogast et son équipe ont fabriqué des moules en caoutchouc à partir d'une des voitures, y compris une partie avant tout entière. Christine sera présentée sur plus de 1045 salles en Amérique du Nord au début de décembre 1983 et obtiendra alors des critiques mitigées, dont plusieurs le comparaient défavorablement au roman original ou à d'autres films basés sur des œuvres de Stephen King. Amassant plus de 3,4 millions de dollars au box-office durant son premier week-end, le film sera alors en compétition au Festival du film fantastique d'Avoriaz en France. Le 8 avril 1987, le réalisateur John Carpenter poursuivra la compagnie Polar Film, alléguant une rupture de contrat pour ses services sur Christine. La plainte a été déposée au nom de Carpenter par sa société High White Bread Production et a accusé Polar Films de ne pas avoir payé au réalisateur 50 % des recettes brutes du long métrage et de ne pas avoir fourni toute la comptabilité des paiements reçus par Polar Light pour le long métrage. Carpenter et sa société réclamaient plus de 104 000 $ en dommages et intérêts réels et 1 million de $ en dommages et intérêts punitifs. L'issue de l'affaire fut réglée hors cours. Quant à la nouvelle de Stephen King, celle-ci fut nominée pour la meilleure nouvelle fantastique au Locus Award de 1984, puis en avril 2013, la maison d'édition PS Publishing distribuera une édition spéciale de la nouvelle afin de célébrer son 30e anniversaire. Du côté des points positifs, eh bien Christine est un petit film qui a quelque chose à dire malgré ses faiblesses scénaristiques. L'on peut voir ici les deux côtés de la médaille de la vie familiale, soit celle d'un enfant étouffé par ses parents hyper protecteurs, et de l'autre côté, le cauchemar vécu par des parents qui voient leur enfant devenir incontrôlable et violent à leur égard. Le film bénéficie de trucages étonnamment réussis, surtout au niveau de la transformation de la voiture. De plus, Carpenter réussit à donner une personnalité à cette voiture diabolique qui fait en sorte que, par moments, on prend pour elle contre ceux qui l'ont attaquée et par d'autres, on prend pour nos héros qui cherchent à la détruire lorsque cette dernière devient hors contrôle. Le choix musical de Carpenter est excellent, surtout au niveau des chansons qui reflètent et expliquent les états d'âme de Christine. Un autre aspect important est la transformation du personnage principal qui change de personnalité alors qu'il est en train de rebâtir son véhicule. La distribution ici est excellente, tout comme la mise en scène de Carpenter, dont le jeu de caméra est à la hauteur de sa renommée. Cependant, du côté des points négatifs, eh bien, le scénario s'avère un peu simpliste, les personnages manquant de profondeur et les dialogues souffrant de consistance. L'histoire possède énormément de facilités, telles que Lee, qui est persuadé que Christine est dotée d'une vie propre sans que son entourage ne se demande si cette dernière ne devrait pas être internée, ou encore Dennis, qui accepte sans trop de difficultés cette explication pour le changement de personnalité de Arnie et qui est prêt à monter un piège pour détruire Christine seulement sur les dires de Lee. Le film souffre d'un développement lent, qui cause quelques longueurs si le scénario avait été mieux retravaillé. Finalement, les pouvoirs surnaturels de la voiture sont vraiment mal expliqués. On ne sait pas quelles sont les limites de Christine et qui est derrière la possession de la voiture. Est-ce un démon? Est-ce encore un esprit frappeur? Une explication aurait aidé à la crédibilité du long-métrage et surtout à sa conclusion. Du côté de la musique, eh bien, on y retrouve le compositeur John Carpenter, ce compositeur américain qui nous a donné la musique des films In the Mouth of Madness, Halloween, Assault on Precinct 13 et Vampire. Et cette trame sonore sera dirigée par le musicien Alan Howarth, lui qui avait fait la musique des films The Lost Empire, Big Trouble in Little China, They Live et Prince of Darkness. La musique instrumentale sortira en CD et en vinyle le 17 octobre 1989 sous l'étiquette Varese Sarabande. La musique sortira également sous l'étiquette Varese Sarabande Blue Vinyl Edition. Elle sera disponible le 29 septembre 2017. Et finalement, et bien toujours en vinyle, l'étiquette Varese Sarabande sortira à seulement 500 exemplaires. Ce qu'on appelle le Red Vinyl Edition, cette édition spéciale, sortira sur le marché le 30 mars 2018. Je vous mets ici un segment musical de la trame sonore du film Christine.
Born. The nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad. The bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey,
Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad. Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see, I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad.
Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté The Car 5. J'y vais également avec une cote 5. C'est un film de série B, beaucoup de trous au niveau scénaristique, mais c'est quand même un petit film qui est amusant à regarder. Du côté du film Christine, même chose, Mediafilm a coté le film 5. J'y vais également avec un 5. Bonne mise en scène de Carpenter, mais beaucoup de faiblesses au niveau de la scénarisation. Au niveau de l'âge et des contenus, eh bien, du côté de la régie du cinéma, on cote The Car 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans, malgré que, sincèrement, un jeune auditoire pourrait regarder le film sans problème. Du côté de Christine, eh bien, le film est coté également par la régie du cinéma 13 ans indicatif. J'y vais également avec 14 ans pour un langage vulgaire, des scènes de violence, mais il n'y a rien d'excessif. Donc, encore là, ce genre de film qui peut être regardé par un auditoire un peu plus jeune. Au niveau des sorties DVD, Blu-ray disc, eh bien, The Car est disponible dans les deux langues, français et anglais, en DVD et en Blu-ray. Ça, vous avez ça sur la compagnie Universal Studios Home Entertainment. Et vous avez également Shout Factory, qui a sorti en 2015 une édition Blu-ray du film, également en DVD. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut se trouver sur le marché. Cependant, l'édition de Shout Factory n'est qu'en version originale anglaise. Du côté de Christine, eh bien, c'est un film qu'on peut trouver en DVD, en Blu-ray, ainsi qu'en 4K dans les deux langues. Donc, vous pouvez l'avoir dans tous les formats que vous voulez. Un film qui est assez commercialisé, donc pas de problème de ce côté-là. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.